RCF.
C'est l'heure du 18-19 en région et nous retrouvons Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour vous accompagner 18h10, 19h, le 18-19 en Champagne-Ardenne, sur RCF Reims-Ardenne, sur RCF Cœur de Champagne, sur RCF Champagne-Ardenne en DAB+. À mes côtés ce soir, notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard. Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Avec l'envie de nous présenter la météo et peut-être des rayons de soleil pour terminer votre stage demain vendredi?
Exactement, les rayons de soleil sont prévus pour demain, pour le week-end.
Eh bien ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Parmi les fidèles du jeudi, Gérard-Marie-Henri sera avec nous dans quelques instants, toujours au téléphone depuis la Bretagne, où il continue de profiter des vacances, l'occasion de lui demander si lui aussi il subit le vent, ou si les rayons de soleil sont arrivés du côté de Finistère. Quoi qu'il en soit, on parlera du hub gazier de Tira. Nous serons également avec Eric Guirch, un maire de territoire, maire de Sévigny-Valep, exactement, dans les Ardennes, qui nous présentera sa commune, notamment. On fera le point aussi sur l'information, comment les jeunes s'informent en 2024. William sera au micro de Jeanne Boudre dans Parole de Jeunes. Deux rencontres pour terminer cette émission ce jeudi soir. Bruno Maes, historien, qui sera samedi en dédicace à la librairie Guerlain, notamment l'après-midi. Et puis Catherine Boulois, qui est la présidente de la chorale La Sopia. Elle organise le festival Cœur de Champagne. Le rendez-vous, c'est tout au long du week-end. Mieux que ça, ça commence demain, les week-ends de 3 jours, on aime ça et il y en aura bientôt, notamment au mois de mai avec des ponts 3 jours et plus si affinité d'ailleurs. 18h12 sur les ondes de RCF, normalement la ligne est établie avec la Bretagne et là pas de doute ça fonctionne bien. Gérard-Marie-Henri, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
J'ai promis à nos auditeurs dans l'introduction du magazine régional, au moment où on enregistre aussi cette chronique qui est rediffusée dans d'autres cadres, qu'on ferait un point météo, Gérard-Marie-Henri. D'ailleurs j'ai dit le Finistère, je ne suis pas certain que Trémillec soit dans le Finistère.
Si, c'est dans le Finistère Sud, c'est vraiment une pointe. Quand vous regardez la carte de la Bretagne, vous avez Brest au milieu de la... Et puis là, une sorte de petite pointe en dessous qui va dans l'océan Atlantique, et c'est là où je me trouve, et c'est une pointe qui souffle extraordinaire, puisqu'il y a, dans le petit village où je suis, il y a une plage qui s'appelle La Torche, et qui fait du surf, enfin c'est là où il y a des compétitions de surf, parce qu'il y a des super vagues et du super vent. Et donc le super vent, il y a quelques jours, il y en avait vraiment beaucoup, avec des rafales qui sont montées à 130, 140 km à l'heure. Là, maintenant c'est calmé, et demain il devrait faire beau, on pourra peut-être manger dehors, mais pour l'instant c'était quand même assez pluvieux.
Vous vous adaptez à tous les contextes, Gérard-Marie-Henri. C'est vrai que généralement, lorsque l'on vous retrouve le jeudi, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant, c'est pour parler économie, ou en tout cas actualité économique, et on va prendre la direction d'une autre mer, un peu plus loin du Finistère. On va aller dans la mer du Nord danoise, puisqu'il y a ce que l'on pourrait appeler une bonne nouvelle, finalement, avec Total Energy qui redémarre le hub gazier de Tira. Si l'on fait une photographie de cette histoire, Gérard-Marie-Henri, c'est quoi le panorama?
Le panorama, c'est une grande entreprise française extraordinaire qui fait la transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Donc en même temps qu'elle reproduit du pétrole et du gaz, elle a des éoliennes, elle a enfin toute la panoplie d'énergies renouvelables. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette mer du Nord, qui est du gaz européen, on va dire, hein, on va pas uniquement utiliser du gaz américain, on a du gaz européen qui vient du Danemark, de la Norvège, de la Hollande. Et là, donc, Total Energy, il y a 5 ans, avait arrêté son installation parce qu'elle était vieillotte, elle émettait pas mal de trucs en pompant le gaz. Et donc, ils ont refait tout à neuf pour avoir une installation qui va fonctionner jusqu'en 2042 et qui va amener des quantités de gaz assez importantes. Hein, vous aurez chaud l'hiver, qui va permettre donc d'acheminer vers l'Europe avec deux gazoducs, un qui va vers le Danemark et un qui va vers les Pays-Bas. Et après les Pays-Bas, ça va vers la France. Et donc on a une production qui va être à peu près 5 à 6 millions de mètres cubes de gaz par jour. Et tout ça jusqu'en 2042, puisque Total Energy a un contrat avec le gouvernement danois. Il lui a laissé l'utilisation de cette zone jusqu'en 2042, après on verra. Mais pour l'instant, donc vous avez une plage de temps qui est assez importante et qui vont pouvoir sortir l'équivalent de 200 millions de barils équivalent pétrole. Donc c'est une quantité assez importante qui va s'ajouter à ce qu'on a en Europe et qui va permettre de passer les hivers à peu près convenables en allant vers des énergies renouvelables, mais qui ont besoin d'avoir une compensation. Vous savez que les énergies renouvelables, elles s'arrêtent quand il fait noir ou quand il n'y a plus de vent. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres sources d'énergie qui prennent le remplacement. Et là, on fait appel, sans doute, souvent, à des centrales au gaz. C'est mieux que le charbon, c'est moins bien que l'énergie nucléaire, mais c'est la solution qui est privilégiée. Et là, donc, cette remise en œuvre de ce champ gazier, c'est une assez bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi pour les actionnaires de Total Energy, qui est une société qui fait des bénéfices assez sympathiques et qui les redistribue à ses actionnaires.
Vous le dites, Gérard-Marie Henry, le fait d'avoir pu faire des travaux, c'est finalement pour accompagner aussi une transition énergétique avec des énergies que l'on a besoin en plus des énergies renouvelables. Parce qu'on aurait très bien pu se dire en 2019, à la place de Total Energy, finalement aujourd'hui on se dirige vers du vert, du vertueux, on n'a pas besoin de refaire ce hub-là, et puis advienne qui pourra, on se lance vers d'autres choses. Et finalement on a continué de miser sur le gaz, et plutôt à longue durée lorsque l'on parle de 2042.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a dans les discours de certaines personnes mal informées, on a des trucs sur on va arrêter tout de suite, il faut arrêter, il n'y en a plus, etc. Là, on s'aperçoit que les grandes entreprises qui travaillent dans le secteur énergétique ont une vision à long terme qui fait qu'on va avoir une utilisation des énergies fossiles au moins jusqu'en 2070, sinon plus loin, avec à chaque fois une décrue. Une compensation faite par les énergies renouvelables, mais quelque chose qui est indispensable pour pas qu'on se retrouve dans le froid, un arrêt total de l'économie, etc. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Et plus on a des énergies qui continuent à être produites de façon traditionnelle, plus on assure la croissance qui permet de faire des recherches, des travaux pour le reste des énergies renouvelables.
Gérard-Marie Henry, question d'économie, question de propriété, question financière également, tout cela va se mélanger un petit peu, vous allez comprendre où je veux en venir. Finalement, ce hub, il appartient donc à Total Energy, mais il est basé dans la mer du Nord danoise, et ce gaz est acheminé vers l'Europe par deux gazoducs d'exportation, vers Nibro au Danemark et Den Helder aux Pays-Bas. Alors finalement, ça profite à qui? On imagine à Total Energy d'abord, mais les pays qui sont dans le circuit doivent aussi toucher un petit quelque chose.
Tout à fait. Oui, alors... Et Total Energy n'est pas tout seul sur cet investissement. Il détient pas tout à fait la majorité, il détient 43%. Et puis il y a deux entreprises danoises qui détiennent le reste. En fait, il est minoritaire, c'est lui le plus gros actionnaire, mais minoritaire dans l'opération, avec deux entreprises technologiques, toujours dans le domaine de l'énergie, danoises, qui sont partenaires de l'entreprise française. Mais évidemment, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur, entre le puits et puis à l'arrivée, vont bénéficier, vont faire de la valeur ajoutée au gaz qui est produit. C'est pas le même gaz qui se retrouve à 2000 km, il est passé par un gazoduc, il a fallu que le gazoduc on le fasse fonctionner, etc. Donc chacun a le droit à une rémunération, mais le prix de ce gaz à l'arrivée va être tout à fait compatible avec le gaz américain qui est très concurrentiel.
Le fait que ce soit une entreprise française qui, on va dire, tire un petit peu à la bourre, c'est les deux autres entreprises danoises qui l'accompagnent dans ce projet, est-ce que ça permet peut-être à la France, au moment de négocier les tarifs du gaz, de dire, écoutez, nous on vous le paye un peu moins cher parce que c'est finalement grâce au savoir-faire, aux compétences d'une entreprise française que vous êtes chez nous, et finalement le consommateur de gaz qui est aussi l'auditeur de RCF, Gérard-Marie Henry, il paye peut-être son gaz un petit peu moins cher à la finalité parce que Total Energy est implanté au Danemark avec ce hub gazier de Tira.
Non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça.
Il y a un prix
mondial, il y a concurrence sur les différents marchés, et Total et ses collègues sont obligés de vendre au prix que tout le monde pratique, et il ne peut pas y avoir de rabais parce que c'est une entreprise française, etc. Non, ce qui est intéressant, c'est que Total est le maître d'œuvre, c'est lui qui a la technologie la meilleure pour assurer le renouvellement de ce gisement, et évidemment, il se fait payer pour son savoir-faire, et il va pouvoir le réutiliser ailleurs, puisque vous savez que Total Energy fait des recherches dans tous les continents, il est en Amérique latine, il est en Asie, il est évidemment en Afrique à de nombreux endroits, et à chaque fois, il a une avance sur des concurrents parce qu'il a une maîtrise technologique assez importante qui avait fait que, peut-être vous vous souvenez, un des PDG justement de Total Energy était mort accidentellement sur l'aéroport de Moscou quand son avion avait cogné un chasse-neige. Et pourquoi il allait en Russie? Parce que les Russes avaient besoin de lui pour pour faire des forages en Sibérie, etc. Bon, là, les relations entre Total Energy et la Russie de Poutine se sont distendues, mais ça montrait bien la primauté de cette entreprise française au niveau international.
Alors Gérard-Marie Henry, une question plus de communication en lien avec l'économie, puisque vous nous avez présenté un petit peu les conditions finalement hein, du TIRA qui est redéveloppé avec une intensité des coûts d'exploitation réduite, les émissions également, tout en prolongeant sa durée de vie, donc jusqu'en 2042, donc de 25 ans. Gérard-Marie Henry, est-ce que la communication, le fait que ça soit à la fois... Total Energy qui communique d'un côté, les entreprises danoises de l'autre, etc. C'est que chacun a quelque part un petit peu à tirer de son public et des intérêts différents à faire valoir. Ou est-ce que tout le monde est dans la même barque sur ce projet ?
Tout le monde est dans la même barque, mais c'est très difficile de faire passer ce message. En fait, vous comprenez bien que ce qu'on est en train de raconter, vous ne l'avez pas vu dans les journaux, dans les quotidiens français et même internationaux. C'est sur des sites vraiment spécialisés, pétrole, gaz, etc., qu'on trouve ce type d'informations. Parce que ça passe très mal, en fait, quand on dit on a encore trouvé du gaz. Vous avez toute une série de clampins qui disent « Ah là là, c'est pas beau, ça pollue, le réchauffement climatique, etc. » Donc en général, ces grandes entreprises, elles réservent ce type d'informations pour des médias très spécialisés, pour les gens qui sont dans le domaine, et elles n'en font plus tellement la publicité sur les grands médias, ou quand elles le font, elles l'associent ça avec des éoliennes, etc. Tout ce qui est un peu verdâtre pour dire, vous voyez, je fais un peu tout, je compense ce que je fais avec le gaz en faisant tourner à vide des éoliennes. Mais on a un gros problème de transition énergétique, parce qu'il faut absolument tenir le choc jusqu'en 2050, 2070, en faisant monter en puissance les énergies renouvelables, mais qui de toute façon sont intermittentes, donc il faut qu'il y ait à côté d'elles autre chose, et puis elles sont pas si rentables que ça, donc il faut continuer les techniques actuelles, et c'est un peu, si on parle de ce sujet, on en reparlera, on voit l'orientation qu'a pris le plus grand constructeur mondial de voitures, c'est-à-dire Toyota. Toyota ne mise pas à fond du tout sur la voiture électrique. Il continue à faire des voitures thermiques ou des voitures hybrides rechargeables parce qu'il considère que l'on n'a pas arrêté comme ça d'un seul coup une technique qui fonctionne. Il faut qu'elle descende graduellement, mais on ne peut pas mettre tous les gens dans des voitures électriques. Et c'est le pari que fait Toyota d'être là justement avec des voitures sur toute la panoplie. Vous pouvez acheter une Toyota électrique, mais vous pouvez aussi acheter une Toyota qui roule avec un moteur, on va dire normal, à combustion interne. Et donc ça, c'est vraiment le gros débat sur cette transition énergétique. Et Total Energy est vraiment dedans.
Eh bien justement, Gérard-Marie Henry, vous faites bien d'en parler de ce sujet. Et demain, on complétera avec un autre invité qui sera notamment au micro de Christopher Fausten, où il parlera des bienfaits encore de la voiture thermique et des points positifs et négatifs de la voiture électrique. C'est une personne qui travaille notamment chez le loueur Alphabet. Peut-être que vous serez intéressé par le sujet. Ah, vous pourrez, comme les auditeurs, le retrouver en podcast sur le site rcf.fr. Merci Gérard-Marie Henry et à très bientôt.
À très bientôt Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, à 18h23, on prend la direction de Sévigny-Valep avec son maire qui nous parle au micro de Jean-Pierre. Éric Guirch est en ligne.
Éric Guirch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion pour nous de donner un coup de projecteur sur votre commune, Sévigny-Valep. Est-ce que vous pouvez rapidement nous la présenter ? Combien d'habitants ? Il y a certainement deux villages, Sévigny et Valep, s'il y a deux termes.
Oui, donc nous avons Sévigny et le hameau de Valep qui est à 2,5 km. Sur l'ensemble, nous étions 224 habitants au recensement qu'il y a eu en 2020. La commune conserve toujours à peu près le même nombre d'habitants. Ça varie très peu. Il y a des départs, des arrivées. Dans notre commune, nous avons des cultivateurs, des ouvriers, des retraités. Au niveau des personnes retraitées, nous avons une trentaine de personnes de plus de 70 ans.
Et on imagine, monsieur le maire, que vous connaissez tout le monde. Est-ce que vous êtes un enfant du pays, au fait ?
Non, pas du tout. Je suis arrivé ici en 2018.
Ah ben vous êtes un récent habitant de Sévigny.
Oui, oui, oui.
Et on a fait appel assez rapidement à vous pour devenir maire, parce que vous n'aviez pas eu beaucoup, petite expérience peut-être quand même au conseil municipal.
Non du tout, j'ai déjà été conseiller mais sur notre commune, dans les Ardennes. Et ici je me suis présenté, j'avais envie de m'investir et du coup je me suis retrouvé maire. C'est un peu par hasard.
Alors simplement en un mot, monsieur le maire, quand on examine, qu'on regarde un petit peu la situation, est-ce que vous pouvez nous situer la commune pour nos auditeurs des Ardennes et de la Marne surtout. Votre commune est à la frontière, on peut le dire, entre la Marne et l'Aisne. Elle est à combien, 25 km de Rethel? Elle est plutôt dans le sud des Ardennes, enfin à mi-parcours dans les Ardennes.
Oui, nous sommes à 29 km de Rethel exactement.
Donc ça veut dire quand même que le village le plus proche, le bourg le plus proche, c'est en gros c'est Rethel quand même.
Oui, c'est Rethel.
Évidemment, monsieur le maire, je vous interromps, mais on dit toujours dans un village, il y a forcément l'église au centre du village, et l'église de Sévigny-Valep est l'objet quand même de toute votre attention. De quoi s'agit-il exactement, Éric Guirch?
En octobre 2020, j'ai découvert un courrier des Bâtiments de France qui alertait sur le mauvais état sanitaire du fût du clocher. Je suis allé voir et effectivement, il y avait un gros souci, de gros risques. Donc j'ai fait un arrêté de fermeture de l'église et des accès. Et depuis, nous sommes en train de travailler pour trouver des financements pour effectuer les travaux de sauvegarde. Car si rien n'est fait rapidement, le clocher risque de tomber.
Mais alors, monsieur le maire, c'est une somme faramineuse pour une commune comme Sévigny-Valep. La première tranche de travaux, ça s'élève à peu près à combien ?
Donc oui, sur les quatre tranches, la première est primordiale pour la sauvegarde de l'église et elle est évaluée à 1 176 452,17 euros TTC.
Ah, vous êtes précis, monsieur le maire, mais le budget de la commune, bien sûr, est incapable. C'est à peu près, c'est moins de 100 000 euros par an, hein, donc vous pouvez pas. C'est peut-être un appel aux dons parce qu'il y a une association qui s'est créée. Je crois qu'il y a aussi la Fondation du patrimoine qui éventuellement vous donne un coup de main.
Oui, nous avons signé une convention avec la Fondation du patrimoine et nous avons une cagnotte en ligne qui est déjà dans les 10 000 euros environ.
Alors, il y a encore du chemin à faire. Hein.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais bon, c'est déjà bien de voir que les gens sont attachés à leur église. D'ailleurs, il y a une association qui s'est créée en février 2023. Sur le patrimoine de Sévigny-Valep, qui organise des manifestations afin de générer des bénéfices qui seront reversés pour les travaux de l'église.
Donc, alors cette association, on l'encourage bien sûr sur RCF, parce que beaucoup de personnes, même si on sait très bien que dans les villages il n'y a plus beaucoup d'offices, il n'y a plus beaucoup de messes régulières, mais tout de même ça fait vraiment partie du patrimoine. Il y a beaucoup d'habitants qui ont habité à un moment donné à Sévigny. Ils veulent retrouver leur église de temps en temps pour un mariage, et évidemment pour des décès malheureusement. Mais c'est quand même important pour les habitants.
Oui. Quand il y a un décès, les gens sont obligés de demander à la commune de Saint-Quentin-le-Petit, qui se trouve à côté. C'est dommage.
Éric Guirch, bon, je vous coupe parce que évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver. On a encore bien sûr quelques minutes avec vous. Donc l'essentiel en ce moment, c'est la restauration de l'église, ça vous demande beaucoup d'énergie. Il y a une association qui est créée, il y a une cagnotte en ligne, il y a la Fondation du patrimoine qui est sur le coup. D'ailleurs, on invitera prochainement Pierre Possémé ou Bernard Deloriston pour nous en parler. Mais il y a peut-être aussi quelques autres projets, peut-être de voirie, peut-être d'aménagement, peut-être des fleurs, peut-être, j'allais dire, le quotidien de la commune.
Oui, on essaie de tous les ans de s'améliorer au niveau du fleurissement. Bon, il y a un peu de voirie forcément, du curage de fossé, les travaux nécessaires qui reviennent régulièrement. Et nous avons eu un autre gros dossier, c'est l'aménagement du cimetière et son agrandissement. Parce que il ne nous restait plus que 5 places dans le cimetière actuel. Donc il faut qu'on a acquis une parcelle voisine de façon à agrandir. Et donc entre les travaux d'aménagement, d'accès et d'acquisition, la commune en a pour 60 000 euros.
Oui, ça coûte de l'argent, hein, bien sûr, ça coûte de l'argent. Et donc ça, pour un budget de 80 000 euros ou 100 000 euros, 60 000, c'est quand même beaucoup plus l'église. Alors comment vous vivez depuis que vous avez été élu maire, ces fonctions? Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est lourd d'être maire? On ne croirait pas le travail que ça demande, les paperasses, l'administration, les gens qui vous interpellent parce que vous êtes à portée d'engueulade, comme disait Gérard Larcher au Sénat. Ça aussi, vous le vivez au quotidien, mais vous aimez bien ça, vous êtes passionné, Éric Guirch.
Oui, mais il le faut, hein, pour faire son travail correctement, c'est nécessaire. Après,
mais est-ce que vous avez, ça je vous interromps encore, est-ce que vous avez encore, c'est peut-être indiscret, une activité professionnelle? Parce que il y a beaucoup de maires qui sont en retraite et qui dégagent quand même beaucoup de temps et ils sont libres en journée, alors que quelqu'un qui a une activité professionnelle, lorsqu'il est maire de la commune, il a quand même beaucoup de contraintes.
Oui, moi je suis encore en activité. Et c'est vrai que le poste de maire était très prenant et que quand on travaille, c'est un peu plus compliqué.
Pour des réunions, parce que vous êtes obligé de les faire forcément en soirée ou en début de soirée, ça c'est quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, vous êtes un passionné. Et moi, ce que je vous propose, Éric Guirche à Sévigny-Valep, c'est que on se retrouve assez prochainement parce que on va reparler de l'Église, donc avec Pierre Possémé, puisque la Fondation du Patrimoine est sur l'affaire. Et puis, on vous demandera si vous êtes d'accord d'intervenir pour demander à des donateurs éventuels de venir vous rejoindre. Merci en tout cas Éric Guirche d'avoir été avec nous. Vous êtes le maire de Sévigny-Valep. À bientôt sur RCF.
À vous également, oui, à bientôt.
18h31 dans le magazine régional, l'heure du journal. Les titres de ce jeudi 4 avril, un point d'étape sur l'avenir de l'aéroport de Vatry a été présenté en début de semaine. Objectif, retrouver un équilibre financier avant une éventuelle vente, décryptage. Rendez-vous au Faux de Verzy ce dimanche 7 avril avec la première randonnée Handivalide organisée en Grand Est par le comité régional Handisport Grand Est.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Surchargé hier soir par des lycéens et étudiants en réorientation, anxieux de voir leurs vœux validés, Parcoursup est tombé en panne hier soir donc. Face à cet incident, la fermeture définitive de la plateforme, initialement programmée hier à minuit, a été repoussée à ce jeudi 22h. Il reste donc encore quelques heures pour les retardataires, mais attention, cette fois, il ne devrait pas y avoir de délai supplémentaire. Après plusieurs années déficitaires et après avoir divisé par deux sa masse salariale, l'aéroport de Vatry, situé au sud de Châlons-en-Champagne, a fini par retrouver le sourire. Le conseil départemental, propriétaire du site, souhaite retrouver un équilibre financier en améliorant le fret tout en maintenant l'activité passager. Pour la partie fret, le président du département, Jean-Marc Rose, compte sur l'expérience de Fabrice Poquet, nouveau directeur du site.
On a embauché un directeur qui vient du fret, il a 30 ans de métier dans ce domaine-là. Donc lui, il a tout un réseau, il sait ce que les clients en fret attendent d'un aéroport. Donc il va, dans cette période devant nous, réhabiliter l'aéroport par d'obligation organisationnelle pour que ça convienne aux clients potentiels. Parce que d'abord, nous contribuons au déficit de l'aéroport et que nos finances étant de plus en plus difficiles et contraintes, c'est pas l'objet central d'un département de donner des subventions à un aéroport. Notre mission, c'est de travailler à la solidarité, l'aide aux personnes âgées, le handicap, l'enfance et le RSA.
Le challenge du nouveau directeur, changer l'image de l'aéroport de Vatry avec de nouveaux partenaires, une meilleure présence sur Internet et prochainement une nouvelle identité visuelle. Par la suite, le département ne s'interdit pas de vendre l'aéroport si une opportunité se présente. Jean-Marc Rose.
Il est là depuis maintenant 25 ans, un quart de siècle. Il a été là parce que, à l'époque, je le rappelle, on avait une très bonne vignette qui a rapporté beaucoup d'argent et le président de l'époque a créé son aéroport. Moi, je reconnais, comme mes collègues, que ce n'est pas le métier d'un département, gérer un aéroport. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ou de sociétés dans le privé qui le feraient mieux que nous. Lorsque les comptes sont plus équilibrés, voire bénéficiaires, on a plus de facilité à trouver des partenaires financiers et pourquoi pas un acquéreur.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten, 320 millions d'euros investis en 25 ans, dont 260 par le département de la Marne. Journée d'annonce pour les différents festivals locaux. Ce jeudi, l'éco-festival ardennais Le Cabaret Vert a révélé à midi les 48 derniers noms de l'édition 2024 qui se tiendra du 15 au 18 août à la Mastérienne et au Square Bayard. Kenny Grace et Teddy Swims, figures anglo-saxonnes du R&B, sont les artistes que l'on retient. En En variété française, le chanteur Hervé rejoint lui aussi la programmation et fait figure d'une de têtes d'affiche du festival. Le musicien multi-instrumentiste australien Xavier Rude, qui vient pour la première fois dans les Ardennes, sort lui aussi du lot. À Reims, le Charabia Festival, qui se tiendra au mois de novembre, a lui révélé aujourd'hui le premier artiste, ou plutôt le premier groupe d'une programmation encore inconnue jusqu'alors. C'est Dionysos qui se produira à la cartonnerie le 21 novembre prochain. Il va y avoir du sport ce dimanche au Faux de Verzy, à mi-distance entre Reims et Suippes. Le comité régional Handisport Grand Est organise pour la première fois une randonnée handivalide. Sophie, stagiaire au comité, précise les modalités de l'événement.
Alors la randonnée, comme vous l'avez dit, c'est le 7 avril au Faux de Verzy, donc elle est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap, toutes les personnes valides. Donc on a trois parcours, donc on a un 2 km, le 2 km il est accessible à tous, même en fauteuil. Ensuite on a le 6 km et le 9 km. Pour ces deux autres parcours, les personnes à mobilité réduite peuvent faire une demande de joualette. Et donc sur place, pour notre événement, on aura un village animation, une aire de pique-nique pour les participants. Donc l'accueil est à partir de 9h15. Les départs sont libres entre 10h et 15h et on a des départs encadrés pour les joualettes, un départ à 10h30 et un autre à 14h.
Un événement qui vise à promouvoir l'inclusion, le sport et le handicap. Camille Poirel, chargée de développement au comité régional Handisport Grand Est.
C'est vraiment nous l'idée de développer un petit peu la pleine nature, de développer du coup le sport pour tous. Donc c'est pour ça que c'est ouvert vraiment à tout type de handicap, toute personne valide. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un événement inclusif qui va viser à promouvoir du coup le sport, le partage, le handicap autour d'une journée et d'une même pratique.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes, l'accueil débutera à partir de 9h15 dimanche. Vous pouvez vous inscrire en passant par les réseaux sociaux, Instagram et Facebook du comité régional Handisport Grand Est ou directement via la plateforme Hello Asso en cherchant la randonnée au Faux de Verzy de ce dimanche 7 avril. Possibilité de s'inscrire sur place. Sport toujours, la première étape de la course cycliste, le circuit des Ardennes ce jeudi, était un parcours de 165 km reliant Juniville à Asfeld. Le Norvégien André Dreger de la team Coop Repsol a empoché la victoire et enfilé le premier maillot jaune, de cette 49e édition. Ça jouait en volley hier soir, la deuxième manche des quarts de finale des playoffs de Liga. Vainqueur de Paris 3-7-1, Chaumont mène 2-0 dans sa série et pourra se propulser en demi-finale en cas de victoire samedi lors de la troisième rencontre. À 18h37, c'est l'heure de la météo. Avec Marion Yernard, notre stagiaire à la rédaction, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Quel temps en Champagne-Ardenne pour demain? Profitez de cette question, c'est l'avant-dernière fois que vous l'entendez.
Et oui, je suis quand même un peu triste. Donc pour demain, vendredi 5 avril, préparez-vous à vous envoler. Au programme 13 degrés et des nuages pour toute la région. Dans l'après-midi, le temps se gâte. Les Ardennes, la Marne ainsi que la Haute-Marne seront en vigilance jaune. Et l'aube sera en orange. Ces perturbations commenceront à partir de midi et s'estomperont vers minuit, puis partiront vraiment le samedi 6 avril en début d'après-midi. Faites attention durant ces horaires. Cependant, les températures iront jusque 21 degrés. N'oubliez pas la fête des Irènes demain le 5 avril. Je vous le redis, prenez vos précautions. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion, bonne fête aux Irènes et puis une bonne soirée à toi. On te retrouve demain dans le magazine régional à partir de 18h10. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Vous le savez, le jeudi dans le magazine régional, on donne souvent la parole aux jeunes, parfois à Suzanne Joss dans 240 secondes, parfois à d'autres. Eh bien aujourd'hui, on retrouve William au micro de Jeanne Boudre dans Parole de jeunes, pour essayer de comprendre comment ils sont sensibles à l'information.
Bonjour William.
Bonjour.
Quelle importance est-ce que tu accordes au fait de te tenir au courant de l'actualité ?
L'actualité, c'est quelque chose déjà, premièrement, qui me passionne, mais aussi je trouve qu'il est totalement important de pouvoir avoir des informations, qu'elles peuvent être utiles ou inutiles, mais c'est très important de pouvoir s'informer parce que faut qu'on puisse être aussi au courant de notre monde, qu'on puisse être au courant de ce qui se passe aussi autour de nous.
Quels médias utilises-tu pour t'informer ?
J'utilise plusieurs médias. À la télé, je peux regarder des émissions comme le midi ou le 20h. Ensuite, je regarde aussi beaucoup sur Internet, que ce soit par des comptes Instagram ou par des vidéos YouTube, bien sûr, la célèbre chaîne d'Hugo Décrypte, mais aussi d'autres où je regarde des reportages sur Arte, des reportages... La dernière fois, il n'y a pas longtemps là, il y a 2 jours, c'était Cache Investigation. Du coup, je regarde comme ça.
Selon toi, quel danger y a-t-il à s'informer sur Internet ?
Il y a énormément de dangers parce que, bien sûr, il y a le phénomène de la désinformation et des informations qui sont tout à fait erronées. On a eu beaucoup d'exemples, que ça soit sur Twitter ou ailleurs. Et aussi, je suis en train de passer un concours qui check ton info et on se rend compte qu'encore une fois, il y a énormément d'informations qui peuvent être soit détournées, soit totalement fausses, ou soit il y a de l'incompréhension en fait. Et je trouve que c'est un phénomène qui peut toucher beaucoup de monde parce que l'information, elle peut être diffusée partout, elle peut être comprise par n'importe qui, donc c'est malsain.
À quoi est-ce que tu reconnais une fake news ?
C'est pas si simple que ça, car déjà, on peut confondre. On pourrait croire que cette news, cette info est vraie, alors qu'elle est fausse. Mais lorsque on a quand même un petit doute, des fois il y a un petit doute, on sent que l'information n'est peut-être pas totalement sûre, on se met alors à la vérifier. En tant que rédacteur en chef du club journal, du petit Jean-Jo, au lycée Jean Jaurès, on nous a appris qu'il fallait, pour vérifier une information, il fallait déjà essayer de la consulter sur d'autres sites. Imaginons l'information, elle vient de le BFM TV, et ben on consulte peut-être l'AFP, on consulte des autres sites internet, on retape juste l'information et on essaye de voir si les autres médias concordent avec le média que vous avez vu avec l'info. Ensuite, il y a plein de manières. Là, j'ai parlé du coup d'une info d'une manière générale, mais ça peut être des photos. On peut rechercher sur des sites, il y a des sites spécialisés. Il y a tout sur Internet pour vous permettre de savoir si l'information est vraie ou fausse.
Qu'est-ce que tu fais à ton échelle pour lutter contre les fake news ?
Je fais rien en tant que tel. Cependant, grâce à mon concours que je suis en train de passer pour Check ton info, qui est donc un concours qui permet aux élèves de tous les lycées de créer une vidéo pour expliquer comment agir face à une fake news et comment trouver la vraie information. Et donc, de ce concours, on a eu plein de fake news qu'on nous a envoyées, qu'il fallait en fait déchiffrer si elle était vraie ou fausse. Et grâce à ça, on a pu établir un travail dans lequel, dans une vidéo, on explique quelles sont les étapes pour déchiffrer si la news est vraie ou fausse.
D'après toi, quelles mesures devraient être mises en place pour encadrer l'information sur Internet ?
Je pourrais en citer qu'une seule, c'est celle sur Twitter que j'ai vue. Les informations sont nombreuses sur Twitter et ils ont mis un système en place qui permet de faire en fait un développement détaillé sur chaque information qui est bien sûr libre de droit, donc tout le monde peut lire ces informations. Ça rajoute quelque chose parce que on se dit que l'information elle a été postée et en plus de ça elle a été vérifiée. Donc il y a tout un raisonnement sur la vérification de cette information. Donc je pense que c'est l'une bien sûr des méthodes qu'il faut développer, le fait de vérifier en fait les informations.
Merci beaucoup William d'avoir répondu à mes questions. C'est tout pour cette interview et à bientôt dans Parole de Jeunes.
h 43 désormais sur les ondes de RCF, on parle Sacre des Rois, de Corbeny, de Liesse avec l'historien Bruno Maes désormais qui répond aux questions de Jean-Pierre Benoît.
Bruno Maes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que dans l'actualité, on voit la ville de Reims qui se transforme. On a entendu parler de voies des sacres, d'aménagement. Ça veut dire que ce que nous allons évoquer avec vous est en pleine actualité.
Tout à fait. On ne peut pas séparer Liesse des sacres. Le roi sort de la ville des sacres, mais son parcours en sacralité continue. Il continue à Corbeny. À Corbeny, le roi devient médecin. Et ensuite, il va à Liesse. C'est ce qu'on appelle la trilogie sacralisante des sacres.
Bruno Maes, si vous êtes là aussi, il faut le préciser d'entrée de jeu, c'est parce que le week-end prochain, le samedi 6 avril, vous êtes à la librairie Guerlain de 14h à 18h avec justement ces 3 ouvrages. Il faut nous expliquer parce que les béotiens que nous sommes ont besoin d'explications. Nous, on a l'image du Sacre des Rois, vous avez ajouté Corbeny et vous ajoutez Liesse. Les 3 lieux sont liés, la plupart des rois allaient faire cet itinéraire.
La plupart des rois, à partir du XIVe siècle jusqu'au dernier roi, ont le sacre à Reims. On verra qu'à partir de Louis XIV, le Rhône ne va plus à Reims, ce sont les reliques de Corbeny, les reliques de Saint-Marcoux, hein, qui viennent à Reims. Et en tout cas, on a fait une journée d'études dont le titre est « Les sacres des rois
à Reims ».
À Reims,
hein. Ça veut dire, Bruno Maes, pour que les auditeurs, les auditrices comprennent bien, s'ils vont voir à la librairie Herlin, c'est qu'il y a trois livres en support.
Oui.
Il y a « Le sacre des rois à Reims
oui. »,
c'est le premier, en 2017.
Oui.
C'est « Le sacre et le couronnement en Europe », c'est un colloque qui a eu lieu en 2019, qui a donné
oui.
lieu à un ouvrage.
Oui.
Et puis le dernier, c'est « Notre-Dame de Liesse » en 2023. Donc il y a trois livres, c'est vrai. Donc il faut passer de l'un à l'autre.
Tout à fait. Alors, Le Sacre des Rois à Reims a été publié par l'Académie nationale de Reims. Si vous voulez l'acheter, il vaut mieux aller au siège de l'Académie. Et ensuite, Le Sacre des Rois en Europe. Donc, c'est un colloque qu'on a fait à Nancy en 2019. Sacre et couronnement en Europe, rites politiques et sociétés du Moyen-Âge à nos jours. Là, c'est un recueil de communication. De même que Le Sacre des Rois, c'est un recueil de communication. Et le troisième livre, c'est donc...
Notre-Dame de Liesse.
Notre-Dame de Liesse.
Alors là, c'est vous, Bruno
oui,
Maes.
Oui, oui.
C'est pas de la décommunication.
Oui, non,
c'est vous.
C'est moi.
J'aimerais bien qu'on se trouve dans cette ambiance des rois. Imaginons, prenons un roi, Louis XIII. Louis XIII, il est sacré à Reims.
Oui.
Donc, il y a, j'allais dire, un cérémonial particulier. On en parle souvent.
Tout
le cérémonial fait. Du sacre. Alors, le sacre va donner une force au roi.
Oui, tout à fait. Vous vous souvenez peut-être de Jeanne d'Arc. Pour Jeanne d'Arc, quand elle va rencontrer Charles VII, Charles VII monte sur le trône en 1422. Quand elle va voir Charles VII, comment l'appelle-t-elle ? Elle l'appelle gentil dauphin. Le roi n'est pas sacré, donc il est encore dauphin.
Et la sainte ampoule va donner une sacralité
oui.
et une force. C'est ça que vous voulez dire, Bruno Maes ?
Voilà, tout à fait. Pour que le roi soit sacré, on utilise la sainte ampoule. Mais le roi, à ce moment-là, n'est pas encore un guérisseur. Vous savez que le roi de France, après son sacre, il va à Corbeny. Qu'est-ce qu'il y a à Corbeny ? Il y a un prieuré à Saint-Marcoux, et en faisant ce pèlerinage, le roi devient guérisseur. Il guérit des écrouelles, il guérit des scrofuleux.
Et ça fait partie de la tradition.
Oui.
On est sacré à Reims, et hop, on va dans l'Aisne maintenant,
oui.
hein, à quelques kilomètres, à Corbeny, pour être guérisseur d'une certaine façon.
Absolument. Certaines personnes me disent, est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas... Si vous allez aux archives départementales à la fac de sciences au Moulin de la Housse, il y a des dizaines de documents qui attestent que, voilà, la personne avait les écrouelles, le médecin dit « je ne peux rien faire, faites le pèlerinage à Saint-Marcoux et vous serez guéri ». Et ça marche.
Et ça existait dans la tradition anglaise.
Oui, tout à fait.
On en parlait, le roi guérit les écrouelles, il est un guérisseur.
Le roi est un guérisseur en Angleterre aussi, jusqu'au XVIIIe siècle. Quelqu'un a fait un livre magnifique, qui s'appelle Marc Bloch. Hein, Marc Bloch a écrit un livre « Les rois thaumaturges ». Et Marc Bloch présente très bien ces choses.
Alors, quand on est à Corbeny, qu'on s'appelle Louis XIII,
oui.
qu'on est devenu guérisseur après
oui.
avoir eu la force
oui.
du sacre,
oui.
on va aller du côté de Liesse, et même à Liesse.
Oui,
Pourquoi Liesse, Bruno Maes ?
Parce que Liesse, sous l'Ancien Régime, est le plus important des pèlerinages français. Avant les pèlerinages d'apparition, comme Lourdes, comme la Salette, Notre-Dame de Liesse était le pèlerinage le plus important.
La Vierge Noire,
oui.
on peut en dire un mot quand même.
Oui, tout à fait. Donc le légendaire raconte qu'en 1134, trois chevaliers de la région de Liesse partent en croisade et ils sont prisonniers par les musulmans. Le sultan du Caire n'arrive pas à les convertir à l'islam et il apporte son dernier argument, sa fille Isméri. Et elle dit, vous me parlez de la Vierge de Liesse, de la Vierge Noire, moi j'aimerais la voir, cette Vierge, mais ce sont des chevaliers. Et donc la Vierge descend du ciel. Elle n'est pas faite de main d'homme, donc elle descend du ciel et les trois chevaliers lui offrent la Vierge Noire. Ensuite, Isméri, qui est donc devenue chrétienne, s'enfuit avec les chevaliers, elle s'endort sur les bords du Nil et elle se réveille où ? Devinez où ? À Liesse. C'est ce qu'on appelle un miracle de téléphorie.
Et alors, naît depuis cette époque ce pèlerinage à Liesse qui va avoir un rôle essentiel, une importance capitale.
Tout à fait. Tout à fait. Liesse, c'est donc dans l'Aisne. Liesse est dans une frontière confessionnelle. Il y a tout près de là des communautés protestantes en Thiérache, qui existent toujours encore. Il y a tout près de là le Saint-Empire. Et les pèlerinages très importants sont souvent à des frontières confessionnelles ou à des frontières politiques.
Et alors le roi, j'ai pris l'exemple de Louis XIII, mais j'aurais pu en prendre d'autres, il arrive donc à Aliès, oui. Venant de Corbeny.
Tout à fait.
Et là, il y a une cérémonie, j'allais dire, officielle. Il est en pèlerinage.
Il est en pèlerinage, tout à fait. Et par exemple, quand Louis XI vient à Liès, Louis XI est venu plusieurs fois à Liès, il prend des mesures, pour gracier les gens. Les condamnés à mort, il les gracie pour montrer que...
Liès lui donne véritablement une aura exceptionnelle et oui, puis une miséricorde au-delà des limites naturelles. Si on parle de tout cela, Bruno Maes, le temps passe très très vite, c'est parce que votre intervention samedi 6 avril à la librairie Guerlain à oui. Reims, de 14h à 18h, va être centrée sur ces trois livres.
Oui,
Le Sacre des Rois à Reims, les Sacres et les Couronnements en Europe, et oui. puis Notre-Dame de Liès. Oui. C'est-à-dire qu'avec vous, dans l'après-midi, à la librairie Guerlain,
oui.
on va entreprendre ce parcours de Reims
à
Corbeny, puis à Liès.
Tout à fait. Je voulais vous dire aussi que le Sacré Couronnement, il y a 15 jours, je participais à une émission...
Sur
KTO.
Et on peut trouver sur YouTube KTO, dans la rubrique Sacre, on tape Bruno Maes et on a le résumé.
Pas le résumé, l'émission entière qui a duré une heure quand même.
Qui a duré une heure, oui. En tout cas... On est obligé de nous séparer parce que le temps passe très très vite avec vous, Bruno Maes. Et samedi 6 avril, de 14h à 18h, rendez-vous à la librairie Guerlain.
À bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et cette fois, on part en musique. Suite au succès de la première édition en avril 2022, la chorale La Sopia organise demain, samedi et dimanche la seconde édition de son festival de chant choral, Cœur en Champagne. Pour nous en parler, Catherine Boulois, présidente de la chorale La Sopia, avec Christopher Fausten.
Bonjour Catherine Boulois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans les studios de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes également maire de Cuperly et vice-président de la communauté de communes de la région de Suippes. Avant d'évoquer cette seconde édition du festival de chant choral Le Cœur en Campagne, parlez-nous un petit peu de votre association parce que vous êtes quand même présidente depuis de nombreuses années. On en parlera bien évidemment dans cette interview. La Sopia déjà, que signifie la Sopia ?
Eh bien, la Sopia, c'est l'ancien nom, en vieux français ou même peut-être en latin, je ne sais pas exactement, de Suippes.
Suippes.
Tout simplement.
D'accord. Voilà. Et donc, l'association de la loi 1901, qui existe depuis combien de temps?
Elle va bientôt fêter ses 40 ans.
40 ans. Et vous êtes président depuis combien de temps?
Ça doit faire une bonne dizaine d'années.
Dizaine d'années déjà?
Oui, déjà.
Fidèle présidente, on peut le dire.
Ben, écoutez.
Et tant... passionné.
Oui, sans doute. Et puis tant que mes collègues trouveront que je remplis ma mission correctement, oui. je pourrai continuer.
Catherine Boulois, parlons un petit peu en quelques mots de son histoire, parce que vous le disiez, 40 ans, l'association, il a dû s'y passer beaucoup de choses avec l'association La Sopia.
Ce que je peux dire déjà, c'est que le chant choral, c'est une activité qui n'a pas d'âge, qui a toujours existé. Pour moi, la voix humaine, c'est le plus bel instrument qui existe. Oui. Et c'est avec cette voix humaine, cet instrument, qu'on peut faire le plus de choses. Le chant choral, ça a été pendant un certain temps considéré comme ringard. Et puis, en fin de compte, peut-être un petit peu grâce au fameux film Les Choristes, ça a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Une nouvelle jeunesse.
Et quand on voit le nombre de chorales, de chœurs qui existent partout et ne serait-ce que dans la région, ça ne peut être que fédérateur. Quand on chante, on ne peut pas penser à autre chose. Et c'est une activité qui apporte détente, décontraction et un vrai plaisir de partage. Surtout le chant choral. Quand on est plusieurs... Oui. à partager la même chose et à construire un morceau ensemble.
Alors, on néglige pas les instruments de musique malgré tout, mais pour vous, la chorale ne remplace pas ces instruments. Ça restera toujours au-dessus.
Oui, enfin, c'est autre chose. Je vais dire que c'est autre chose et ça permet d'autres façons d'exprimer la musique.
Quelles sont les différentes activités que propose l'association La Sopia? Alors, on a bien compris et on va le présenter dans quelques minutes. Madame Boulois, c'est bien sûr cette seconde édition du festival qui se tiendra les 5, 6 et 7 avril prochains. Est-ce que vous organisez d'autres événements? Quelles sont vos autres activités durant l'année?
Alors, toute l'année, on fonctionne par saison. C'est en général de septembre à juin. Les répétitions ont lieu presque toutes les semaines, les mardis soirs. On se retrouve à SUIP. Et puis, nous avons des rendez-vous assez réguliers que sont le concert du Nouvel An que nous menons, que nous donnons à SUIP avec, en commun avec l'Union musicale de SUIP. Nous fêtons la Sainte-Cécile au mois de novembre. La Sainte-Cécile, c'est la fête des musiciens, c'est la patronne des musiciens. Donc, on a toujours un moment un peu fort à ce moment-là. Et puis, la fête de la musique, bien sûr, que nous pratiquons un petit peu à la demande. Et puis, nous sommes sollicités, je peux le dire, assez régulièrement pour animer un événement à droite ou à gauche dans la région.
Et donc, en plus, ce festival de chant choral, chœur en campagne, seconde édition, les 5, 6, 7 avril. Catherine Boulois, présidente justement de la chorale La Sopia, qui va organiser ce magnifique rendez-vous, on peut le dire. Et on peut rentrer maintenant dans le sujet ensemble sur RCF avec 3 concerts dans 3 églises différentes et avec 3 chorales.
C'est le principe de base. Bon, j'avais un peu initié ce rendez-vous parce que nous rendons compte que nous aimons nous retrouver entre chorales, rencontrer des chorales, montrer la diversité du chant choral parce que les répertoires sont très très variés d'un chœur à un autre. Et en deuxième objectif, c'était de créer un événement culturel sur la région de SUIP. Ma deuxième casquette de...
On retrouve la casquette.
au sein de la communauté de communes. Créer un événement culturel et en même temps valoriser le patrimoine religieux de nos villages, dans tous les villages et des églises qui servent de moins en moins. Et c'est très dommage. Et en plus de ça, c'est des endroits où l'acoustique est la meilleure.
Donc, pour organiser un tel événement.
Donc voilà, le principe, c'est on est parti sur cette idée pour pouvoir l'organiser par nous-mêmes déjà. Oui. Donc 3 chorales, 3 concerts, 3 églises différentes, avec des styles différents. Donc le vendredi soir, pour cette année, ça sera à Sainte-Marie-Appy, le premier concert le vendredi 5 avril.
Voilà, 20h30 précisément.
20h30. Le samedi 6 avril à 20h30 également dans l'église de Bussy-le-Château et le dimanche 7 avril à 17h à Sompitahur.
Donc 3 concerts, 3 églises, 3 chorales. Combien justement de choristes allons-nous retrouver durant cette seconde édition, Catherine Boulois?
Alors il y a un petit détail en plus, c'est que la chorale de la Sopia va ouvrir le festival. Donc ça fera 4 chorales pour le premier concert.
Ah oui, finalement.
Et va clore le festival, c'est-à-dire qu'il y aura 4 chorales également au dernier concert.
Finalement, oui, il y aura 4 chorales.
Alors, le nombre de choristes, déjà, la Sopia, nous sommes 70
quand même
adhérents à cette association. En général, sur un concert, on est au moins 60. Hein. Après, il y a des groupes qui sont... 15, 20, 30, ça va jusqu'à 60, effectivement. Donc, à chaque concert, il y a entre 80 et 100 choristes.
Un super rendez-vous à retrouver donc du côté de Sainte-Marie-Appy le 5 avril, à Bussy-le-Château le 6 avril et à Sompitahur le 7 avril. On peut le dire, Catherine Boulois, ouvert à tous.
Bien entendu.
Et puis sans réservation, on peut y aller librement sur place. Comment ça se passe?
Pas de souci. La seule restriction, c'est quand l'église est archi pleine. Mais on peut ouvrir les portes s'il fait pas trop froid. Bien sûr, entrée libre, participation libre également, parce que effectivement, nous essayons de financer un petit peu cette organisation, mais pas de réservation, entrée libre pour tous, tout public. Pas de souci.
Quand vous dites participation libre, c'est par rapport à l'activité, à faire vivre l'association, la SOPIA?
C'est-à-dire que nous mettons simplement une corbeille à l'entrée de l'église, les gens mettent ce qu'ils veulent, s'ils sont contents ou pas contents du concert.
Mais il n'y a aucun doute s'ils seront contents.
J'en sais rien, on verra bien, j'espère. Et ça, cet argent, effectivement, nous permet de financer la sonorisation, les partitions, les instruments, enfin voilà.
Eh bien, on invite nos auditeurs à s'y rendre à cette seconde édition Festival de chant choral chœur en campagne dans les trois églises. On rappelle Sainte-Marie-à-Pie le 5 avril 20h30, à Bussy-le-Château le 6 avril 20h30 et à Sampit-à-Hure le dimanche 7 avril à 17h. Une manifestation gratuite ouverte à tous. Merci Catherine Boulois d'avoir accepté notre invitation ici dans le studio de RCF à Châlons-Champagne. Je rappelle, présidente de la chorale La Sopia, maire de Cuperlie et vice-présidente de la communauté de communes de la région de Suippes. À très bientôt et on vous souhaite un très bel événement avec beaucoup de monde dans les églises.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
Et merci à vous également, Christopher. On vous retrouvera demain depuis les studios de RCF Cœur de Champagne. Merci à Fabrice Gironnet à la mise en onde. Merci à nos auditeurs pour votre fidélité. Merci Marion. À demain pour la dernière.
À demain pour la dernière.
Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Tout de suite, l'Info Nationale.